Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour Vincent.
Alors, mercredi dernier, il y avait la sortie du Terrence Malick. Figurez-vous que personne autour de cette table ne l'a vu, donc c'est pas de ça dont on va parler. Mais on va parler de Babysitting.
Et oui, le 2 du
le
nom.
Le 2, voilà. Avec une chronique plutôt assassine de ta part, Marine,
exact.
Me semble-t-il. Et puis, nous aurons l'occasion aussi d'écouter l'équipe du film. Qui nous parlera du found footage qui est donc à l'épreuve dans ce film. Moi, je vous parlerai de Demain aussi, le film de documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Quant à vous ?
Eh bien, moi, je vais vous parler de Cowboy, qui n'est pas spécialement un western, mais bien un film français. Et puis, j'évoquerai donc le film noir, La Dame du Lac, que je devais aborder la semaine dernière.
Et moi, je vous parlerai aussi du dernier Nanni Moretti, Mia Madre.
Eh bien, c'est Cinérama qui débute maintenant.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Demain, donc, documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Voilà une sortie qui tombe au bon moment. La COP21 et les questions soumises par la conférence sur le changement climatique qui a démarré ce lundi. Demain questionne le monde, comme il va mal, et va à la rencontre de ceux qui ont déjà trouvé des éléments de réponse pour qu'il aille alors un peu mieux. Son point de départ, c'est une étude scientifique parue dans la revue Nature en 2012, annonçant un effondrement des écosystèmes et la disparition de l'homme. Autant dire que les enfants, ça va passer, les petits-enfants, faut voir, mais les arrière-petits-enfants, ça pourrait ne plus passer. Mais le plus simple est peut-être d'écouter la bande-annonce.
A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité.
Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point.
Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement.
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes.
We didn't start with shall we save the planet because that was too grand. We just start with where we are.
Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie.
Faisons tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand.
Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant.
On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
Demain est un documentaire malin à plus d'un titre. Tout d'abord, il est écrit par 2 personnes. D'un côté, on a Cyril Dion, qui n'a aucun rapport, je crois, avec la chanteuse, ce qui est un militant qui a fondé le mouvement Colibri, impulsé par Pierre Rabhi, l'un des sages de la décroissance. Et puis de l'autre, on a Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice capable d'apporter des financements avec son nom. La preuve, ils ont fait une campagne de financement sur Kiss Kiss Bank Bank, qui a été alors un succès. Ils avaient prévu une campagne de 15 jours et en fait, en 2 jours, ils ont rassemblé tout le budget pour faire ce film. Alors ainsi, le côté bicéphale mêle le technicien militant avec la professionnelle du cinéma et son côté sensible. Il est malin aussi parce qu'il abonde d'images clipesques et de musique sentant bon le feel-good movie, 2 ingrédients allégeant le discours, car du discours, il y en a. Demain, ce sont avant tout des exemples d'initiatives, de combats, d'expertise qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité, qu'un notre monde est possible. Alors on va à Détroit où les usines ont foutu le camp, maintenant remplacé par d'immenses potagers en plein centre-ville. On va aussi au Danemark discuter énergie renouvelable. On va en Suisse pour causer argent. Alors ça paraît presque cliché, mais là on est avec un banquier de la Vire, un établissement qui met en réseau plusieurs entreprises payant avec une monnaie mais qui est seulement reconnue par eux. Voilà. On part aussi, donc c'est un circuit fermé. On part aussi en Finlande pour voir comment le système scolaire fonctionne. Alors on voyage beaucoup, à tel point qu'on en arrive à se demander le bilan carbone d'un tel projet. Mais il n'empêche que les intervenants sont très bien choisis. Certains sont d'ailleurs des habitués de ce genre de documentaire. Hein. Je pense notamment à l'Indienne Vandana Shiva, qui a fondé une banque de graines pour lutter contre la privatisation du vivant. Comme c'est la tendance, cette privatisation avec les géants de l'agronomie type Monsanto. Une femme qu'on avait déjà vue dans l'excellent documentaire « Solutions locales pour un désordre global ». Et pour tout dire, Demain fait penser au film de Colin Serrault sorti il y a tout juste 5 ans, mais en version caméra HD, musique tendance et avec la volonté aussi d'aller au-delà du vivant. Parce que Demain évoque la question de ce qu'on mange. Alors il faut bien se nourrir, des énergies, il faut bien se chauffer. Comment on éduque, il vaut mieux penser. Et comment remédier au désastre économique. Et c'est peut-être là où il échoue à vouloir être un catalogue de solutions trop vite exposées. Colin Serrault s'attachait à ce qu'on mange, ce qui est déjà beaucoup. Herbe, j'en ai pris au hasard des documentaires sur ces questions. Herbe racontait comment élever simplement une vache et faire du lait. Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin parlait précisément de Monsanto et de la privatisation des graines. Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde, s'attaquait à la finance mondiale. En clair, il y avait moins l'idée du puzzle fourre-tout que de documenter vraiment un sujet. Alors il n'empêche que quand on passe sur sa mise en scène, qui est un peu poseuse, hein, on voit les acteurs et ceux qui font le documentaire, on les voit mis en scène avec ceux qu'ils interviewent, on les voit dans leur trajet, enfin voilà, il y a une espèce de petite mise en abîme comme ça de ceux qui font le projet. Donc une fois qu'on est passé sur cette mise en scène et sa multitude de pistes soulevées, eh bien Demain montre encore une fois qu'on peut inventer une autre manière de vivre et de penser. Et puis finalement, ça c'est déjà pas si mal. Voilà. Donc c'est un projet qui visiblement a été entièrement réalisé avec l'argent qui est venu de la campagne de financement public. Donc finalement, il n'a pas coûté si cher que ça. Et en tout cas, on peut se laisser tenter. Parce qu'il y a des choses, par ailleurs, qui sont assez étonnantes. Tu l'as vu, Marine, d'ailleurs, tu peux en parler.
Oui, tout à fait, oui. Oui, j'ai trouvé ça très sympa. Ça met du baume au cœur, on va dire, en ces temps voilà, où c'est quand même assez alarmiste, on va dire. Mmh. Voilà, où on est quand même assez soumis à des discours plutôt anxiogènes, angoissants, etc. Et c'est vrai que ce film prend le contre-pied de tout ça et parle plutôt des solutions et non pas que des problèmes.
Voilà, parce que c'est pas, il y a rien de grave. Voilà. Enfin, on a l'impression on a l'impression que le sujet est grave, mais en tout cas, enfin, il y a pas cet esprit de gravité. Oui. Notamment la musique, joue vraiment sur ce côté pas du tout anxiogène. Et puis même les personnes qui ont été choisies, on les écoute plutôt attentivement, facilement. Enfin voilà, c'est plutôt un bel effort. Demain, donc, est sorti ce 2 décembre en pleine COP21, un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et sans transition, on va parler maintenant
sans transition aucune.
De Babysitting 2.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Nous avions laissé Franck au summum de sa réussite à la fin du premier volet. Suite à ses mésaventures, il était devenu auteur de bandes dessinées à succès et avait réussi à emballer la belle Sonia. Cette dernière, souhaitant lui présenter son père, directeur d'un hôtel au Brésil, toute la bande s'en va en vacances. Le fait que son père soit Christian Clavier n'augurait déjà rien de bon et tout va aller de mal en pis. Franck et ses amis stupides disparaissent mystérieusement dans la jungle, accompagnés de la grand-mère de Sonia, laissant pour seul indice leur caméscope et le film de leurs aventures. Comme dans Babysitting 1, la comédie prend ici la forme d'un found footage movie, avec toutes les incohérences que ce procédé comporte. Et puis le grand défi du film est surtout de donner une suite digne de ce nom au premier, en transformant ici le babysitting en mamie-sitting. Alors ce qu'on avait beaucoup aimé dans le premier volet, car il s'était hissé lors de sa sortie au rang des comédies françaises réussies et bankable, c'était son côté film de bande, puisque Philippe Lachaud, Tariq Boudali et Julien Arouti, comédiens et co-auteurs, officient ensemble depuis maintenant presque 10 ans. Et malheureusement, on sent ici que la bande se réunit plus pour des raisons financières que par amitié, autour d'un scénario prétexte. Les comédiens sont sous-exploités, en particulier les comédiennes, réduites au rang de faire-valoir. Si dans Babysitting 1, Alice David campait un personnage de nana assez rock'n'roll et plutôt surprenant, elle se contente ici de se promener en bikini en ondulant de la croupe, au même titre que Élodie Fontan.
Pendant que tu ondules de la langue. Merveilleux. C'est
voilà
la radio.
Qui a plongé sur la croupe. et de la groupe au même titre que Elodie Fontan, rescapée de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et seconde caution Nibar de ce nouvel épisode. Les personnages féminins sont totalement laissés de côté, se contentant des traits de caractère les plus grossiers, allumeuses, niaises, voire totalement insupportables. Cela dit, bah, le reste du film est à l'avenant, hein. Si Babysitting 1 était impertinent, un peu trash ce qu'il faut, ce second se contente d'aller chercher l'humour dans le fond du panier. Homophobe, raciste, vulgaire et misogyne, les trentenaires se comportent comme une bande d'ados immatures et abrutis. Et lorsque l'on sait l'engouement des vrais ados pour le film, on se dit quand même que, sans nécessairement hein, que le cinéma ait vocation à éduquer les foules, il aurait été raisonnable de ne pas mettre toutes les formes d'humour discriminatoire dans un même film, les rendant ainsi légitimes auprès du grand public. Cerise sur la caipirinha, le Brésil, qui pourtant aurait pu fournir des décors sublimes et qui sait, un peu d'inspiration peut-être, est filmé comme n'importe quel décor paradisiaque. Le film pourrait aussi bien se passer en République dominicaine, au Costa Rica, en Guadeloupe, car rien n'évoque vraiment le Brésil. Tout ce que l'on verra du pays, c'est un bout de jungle et une plage pleine de filles dévêtues. Lorsque l'on sait quand même qu'ils ont passé 3 mois sur place pour les besoins du tournage, c'est à se demander hein, si le but n'était pas simplement de se prendre quelques vacances. Alors, on pourra quand même admettre que dans ce film, qui ne vous arrachera pas plus d'un sourire, les comédiens font ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, se débattant avec un script indigent écrit en vitesse, à 4 mains mais sans cerveau. Certes, aucun d'entre eux ne semble détenir un grand talent d'acteur, et surtout pas Christian Clavier, mais ils ont le mérite de donner tout ce qu'ils peuvent avec conviction. Ils ont par exemple passé 2 mois à s'entraîner au saut en parachute hein, quand même, pour tourner la scène finale. Alors bon, voilà, ils l'ont tourné sans trucage, je pense pas que ce soit un truc qu'on aurait vu dans un film hollywoodien. Voilà, donc certes c'est un détail, mais voilà, c'est quand même pour dire qu'ils ont donné un peu de même. Alors bon, hormis cette maigre compensation, me direz-vous, que reste-t-il à sauver ? Bah, à part la forêt amazonienne, rien. Et je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de gobelets à café consommés par jour sur un tournage, mais écologiquement quand même, c'est assez effrayant. Voilà, pour faire un petit rappel sur demain.
Et il sera question d'ailleurs de l'écologie avec une question d'une de nos consoeurs, voilà, à propos de ce film. Alors, après t'avoir écouté, on va écouter comment ils se défendent, puisqu'on a pu eh bien, écouter Philippe Lachaud, Julien Arrouty, donc les deux co-scénaristes, et puis Alice David, l'actrice, une des actrices qui joue aussi dans Bref, ça c'est pour vous rappeler un peu comment elle est. Et donc, on va parler essentiellement du fan footage et puis de l'idée hein, de ce film qui est venu, en fait, pendant qu'il tournait Babysitting 1.
Eh les amis, j'y crois pas, on est au Brésil!
Bienvenidos!
C'est quoi?
On n'avait pas pu tout exploiter sur un seul film et les producteurs étaient assez contents de tout ce qu'on tournait. Et nous ont dit, bon bah voilà, essayez de... On sait jamais si sur un coup de chance Babysitting marche, commencez à réfléchir à une suite et comme ça on pourra enchaîner rapidement. Et c'est pour ça qu'à la fin de Babysitting, d'ailleurs, sur la BD, il y a marqué « à suivre ». On a mis « à suivre » au cas où.
Ah, on était mal.
Et on était trop mal. Hein. Et du coup, là, on a eu la chance que Babysitting marche. Et donc, quand Babysitting est sorti, le film était déjà quasiment écrit. Et en fait, dans le 1, on vivait une fête avec des copains. Et dans le 2, on s'est dit bah, « qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ?» On s'est dit bah, « on va les faire partir en vacances tous ensemble et pour vivre de nouvelles aventures. » Ce qu'on voulait, c'était faire un numéro 2 en essayant de garder ce qui avait plu, tout en essayant de changer suffisamment de choses pour que les gens, voilà, y ait quand même une sensation de nouveauté. Donc dans le 1, on garde un enfant et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire dans le 2. On avait songé à reprendre le petit Rémi dans le film, mais on s'est dit que ça risque d'être la même chose. Ou alors un petit étranger, enfin tu sais, un petit Brésilien. On s'est dit... Et en fait, c'est la mamie nous est venue, c'est-à-dire qu'on trouvait que c'est... Enfin voilà, c'était assez ressemblant, mais assez différent pour une suite. Et d'ailleurs, on s'est posé la question, elle appelait Mamie Sitting même pendant un moment le film. Et donc voilà, et après, ce personnage de mamie, nous, on s'est éclaté à l'écrire, parce qu'on s'inspirait pas mal de Tati Daniel, c'est-à-dire cette grand-mère très réac, très... un peu bien raciste aussi. Et c'est très drôle à écrire.
Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est, au bout d'un moment, ça me...
Sur le 1, on a fait...
un petit peu plus de found footage que sur le 2. Et sur le 2, on a essayé de trouver aussi des trucs un peu plus originaux qui se passent dans le found footage, qu'on retrouve dans le tradi, de croiser les deux trucs, chose qu'on n'avait pas fait dans le premier. L'idée, évidemment, c'était en faisant le 2, c'était de retrouver la même bande de potes avec cette mécanique de caméra retrouvée, mais aussi de créer quelque chose de nouveau et d'original, parce qu'il ne faut pas non plus se foutre de la gueule des gens. Et donc, c'est pour ça ce qu'il disait tout à l'heure, l'idée là, c'était de partir en vacances. Et le found footage, bah, toujours le même principe, mais comme je te disais, alors je ne vais pas spoiler le truc, mais il y a 2-3 moments où on a essayé de mélanger les deux et de se servir de l'un pour l'autre, et voilà. Et c'est un petit peu la nouveauté sur ce projet-là.
Jean-Pierre ! Oh, Jean-Pierre ! Alors, c'est le grand jour !
Désolé, on a un petit contretemps.
Rien de grave ?
Non, on trouve rien. Non, mais il se trouve que ma mère a disparu dans la jungle avec des amis de ma fille.
Oh mon Dieu !
Oui, voilà.
Vous voulez qu'on reporte ?
Non, surtout pas. Non, on regarde une vidéo qui va nous permettre de les retrouver, et puis ça sera pas long, et puis on fait la cérémonie tout de suite après.
Hein ? Moi, j'ai eu la chance d'expérimenter les deux moyens de filmage avec la même équipe, parce que dans le 1, j'étais dans le found footage, et dans le 2, là, je suis avec Christian Clavier et Charlotte Gabrice, en train de visionner les images. Et non, je pense pas qu'il faut de différence, en fait. Les deux doivent être, à mon sens, extrêmement naturels. Je sais que le found footage demande autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on fait croire que c'est amateur, on fait pas de coupe dans une même scène, donc c'est que des plans séquences, donc à ce moment-là, c'est extrêmement chorégraphié entre nous, la technique se repose sur nous, on se repose sur la technique aussi, en fonction des mouvements de caméra, etc. Et donc ça, c'est du millimètre, donc faut être extrêmement précis. Sur le traditionnel, on avait plus d'espace pour faire un peu d'impro sur les fins de scène, etc. De temps en temps, je sais que Christian Clavier, il proposait souvent des sorties de scène un peu différentes, donc ça faisait rebondir, quoi.
Puis il y a autre chose aussi, c'est que sur le tradi, en fait, vous devez faire abstraction de la caméra, alors que quand on est en found footage, ouais. la caméra, c'est un peu un personnage aussi, c'est-à-dire que vous devez jouer avec la caméra.
Cette boîte potin, je vous ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées.
C'est pas la caméra de l'autre con, ça.
Voilà, ils ont pu donc parler de Babysitting 2, qui a été visiblement un peu vite torché, hein, si on a bien compris. Alors, il y avait une question donc d'une de nos consoeurs qui a demandé si le film, parce qu'à un moment on voit une décharge en pleine jungle, et voilà, s'il y avait quand même une espèce de souci politique de dénoncer la déforestation au Brésil. Donc on écoute la réponse.
En fait, quand on écrivait sur le Brésil, c'est vrai qu'on a regardé pas mal de reportages ou quoi, et c'est vrai que ça revenait souvent, la déforestation, la pollution de ces paysages naturels. Et franchement, on ne pensait pas, mais ça mettait un peu les boules, enfin même beaucoup les boules, les images qu'on voyait. Et du coup, nous, c'est une comédie, donc on ne va pas chercher à faire passer des gros messages. Donc voilà, on aborde le sujet de l'écologie de façon assez légère, mais en même temps, on en parle quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet... hyper important, en fait.
Voilà, il ne tartine pas,
c'est,
il est assez honnête. Mais il est quand même assez honnête. Hein. Effectivement, ce n'est pas... allez voir demain, si vous voulez, avoir un petit aperçu de ce que peut être l'écologie actuellement. Babysitting 2, voilà, c'était le gros plan de ce cinérama.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, le titre, hein, Les Cowboys, hein, n'a rien d'incongru. L'allusion donc au western est plus qu'évidente dans ce premier film du scénariste de Jacques Audiard, Un prophète et Dipane notamment, et du Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Alors, Thomas Bidguin rend un hommage révérencieux au film de Horrocks, hein, notamment à La Rivière Rouge pour les rapports humains, et reprend, du moins dans sa première partie, la trame du chef-d'œuvre de John Ford, La prisonnière du désert, transposée en pleine campagne française, quelque part dans l'Ain, au début des années 90. Alors, Les Cowboys débutent intelligemment par un festival country, appuyant à la fois la filiation avec le genre, tout en n'étant pas dupe de l'aspect factice d'une telle entreprise. Bidguin assume le côté folklorique de son film et se focalise d'emblée sur une famille, tout ce qu'elle a de plus banal. Alain est un des piliers de ce rassemblement country-western. Il est présent avec sa fille Kelly, son fils Kid, comme Billy, hein, et sa femme. Il représente d'emblée la famille idéale et soudée, comme le cinéma de Ford n'a jamais cessé de la filmer avec un respect lénifiant. Mais un jour, Kelly disparaît et la vie de famille s'effondre. Alain n'a désormais qu'une obsession, retrouver sa fille à n'importe quel prix, quitte à tout perdre. Il part alors avec son fils dans cette quête sans fin et se rapproche de plus en plus de réseaux islamiques. I was dancing with my doll to the Tennessee walls
when an orphan I happened to see. Alain, tu sais où elle est, Kelly ?
Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter.
qui ça?
Bah, c'est son copain.
C'était dans la chambre de ma fille, je te dis, c'est ton fils qui les lui a donné.
Ça vient de qui? Ça veut dire quoi?
Attends, ta gueule, toi, deux
secondes. Bien sûr que je vais la chercher, c'est une gamine.
Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? Tu la kidnappes?
Parce que c'est moi le kidnappeur maintenant.
J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs.
C'est elle. C'est Kelly.
Afia Khalid. C'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant.
T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Et ça t'a servi à quoi?
Il y a des nouveaux, faut y aller.
It's always good to meet somebody who knows what they're looking for.
Alors, soyons francs, hein, la question politique dans les cow-boys n'est finalement qu'un prétexte. Bitgain ne nous dit rien des réseaux islamiques, n'évoque à aucun moment l'embrigadement et s'aborde toute réflexion à ce sujet. Il a vraiment envisagé son film comme un pur film de genre, avec certes le risque d'être quelque peu déconnecté de la réalité. Alors pourtant, la première partie est remarquable. L'obstination quasi pathologique d'Alain pour retrouver sa fille est retranscrite à l'écran avec un sens parfait de l'économie et du timing. Bitgain prend le risque de l'abstraction, de miser sur les, alors peut-être un peu trop nombreuses ellipses, ne permettant pas toujours de trouver le récit très clair. Les sautes de temps surprennent, parfois on passe de 3 à 4 ans comme ça. Alors tout comme le personnage de... Et en fait c'est un personnage, en même temps cette narration un peu chaotique introduit l'état d'esprit dans lequel évolue Alain, il a un peu perdu pied, sa notion de l'espace-temps s'est diluée, tout comme le personnage de John Wayne dans La prisonnière du désert. Il affiche un mépris certain et une peur hein, envers les musulmans qui ne sont rien d'autre que les Indiens d'aujourd'hui. Alain est un personnage ambigu, touchant parfois dans son désespoir, mais aussi insupportable dans sa vision archaïque du monde, incapable d'accepter que peut-être sa fille ait pu s'enfuir d'elle-même. Alors dans le rôle de ce père au bord de la rupture, hein, François Damiens, décidément de plus en plus intéressant à mes yeux, impressionne avec son jeu tendu et opaque. Alors Bitgain réussit également d'étonnantes incursions nocturnes suscitant l'angoisse. La scène où les islamistes apparaissent sur les toits à l'instar d'Apache sur les collines évoque le meilleur du western, mais aussi le génial assaut de John Carpenter. La mise en scène très maîtrisée grâce à une utilisation pertinente du scope et une lumière favorisant les ambiances nocturnes insuffle une tension et une peur palpable. Alors jusqu'à, alors je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher le plaisir aux spectateurs, mais la deuxième partie qui nous emmène alors jusqu'en Afghanistan, elle se dilue dans les clichés inesthétiques façon reporter sans frontières, un petit peu ronflante. Hein. Là, le récit se traîne, les références au western deviennent plus grossières, comme ce joint fumé comme un calumet de la paix ou ce tueur à gages sorti de nulle part incarné par John Reilly. Les paysages sont somptueux, certes, et le jeune Finnegan Oldfield crève l'écran hein, dans le rôle du kid. Mais là, les cow-boys, en s'éloignant progressivement du pur film de genre, pêchent alors par didactisme et une vision très simpliste de la situation politique. Alors, ce qui n'était pas gênant pendant une heure le devient franchement par la suite. Alors, pur film d'homme hein, aussi, hein, c'est, en cela, le film se rapproche du western hein, et aussi du cinéma d'Audiard, je trouve. Ce premier long métrage réserve aussi une place assez étrange et un peu gênante aux femmes, notamment la jeune pakistanaise que ramène le fils en France. Elle n'a aucun droit d'exister, sinon de remercier le kid de la sortir du pays et de lui offrir une vraie vie. Alors, un point de vue, à mon avis, un petit peu tendancieux quand même. Hein, pour, et un film que je trouve à moitié réussi ou à moitié raté, je sais pas. Tout dépend.
Il faudra choisir.
Il faudra choisir. Voilà. C'est l'histoire du verre à moitié plein et ou à moitié vide.
Merci. On va passer maintenant au Nanny Moretti qui sort le 2 décembre.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Le film s'ouvre sur une scène pour le moins surprenante. Des ouvriers se regroupent devant le portail d'une usine, scandant des slogans avant d'affronter des CRS. Notre œil averti est quelque peu troublé par le jeu caricatural des comédiens et par le peu d'implication des figurants. Moretti serait-il à ce point fatigué qu'il ait si peu soigné sa scène d'ouverture ? Le doute ne persiste que quelques minutes, il s'agit en réalité d'une scène tournée par Margarita, le personnage central de Mia Madre, un bout de film dans le film donc. 5 ans séparent Mia Madre du précédent film de Moretti, Habemus Papam. Et c'est d'ailleurs au cours de ce tournage que la mère de Moretti décède, lui donnant ainsi le matériau de son film suivant. Dans la chambre du fils, il était question du deuil de l'enfant, Mia Madre questionne le deuil de la mère. Heureusement, Moretti sait éviter la trame linéaire en étouffant par d'autres thématiques son intrigue pour le moins dramatique. Dans ce film qui a tout de l'autobiographie, Moretti nous parle de deuil mais aussi de cinéma, interrogeant avec humour et recul le statut du réalisateur. On lui sera particulièrement reconnaissant d'ailleurs d'avoir posé comme figure de cinéaste une femme, ce qui est assez rare, puisque les films traitant du cinéma tournent souvent soit autour de la figure de l'actrice, soit du réalisateur, jamais de la réalisatrice en fait. Il est très intéressant également de voir un film articulé autour d'un personnage de femme de 50 ans, une figure finalement peu exprimée au cinéma, si ce n'est pour incarner des femmes au bord de la crise de nerfs, confrontées à la perte de leur féminité ou voulant redéfinir leur vie. Ici, rien de tout cela. La femme de 50 ans est montrée dans toute sa lumière et ses doutes confrontés en priorité aux problématiques du travail et de la famille. Signifiant ainsi l'aspect universel du deuil, Moretti dépeint Margherita comme un personnage très ordinaire qui ne sait pas affronter la mort de sa mère et non comme une figure canonique de matrone italienne. L'ensemble est heureusement allégé par quelques notes d'humour apportées par le personnage de John Turturro qui, au passage, égratigne le statut sacro-saint de l'acteur, rappelant à travers son personnage de comédien mégalomane la vacuité du monde du cinéma et son rapport torturé à la réalité. Toujours sur le fil, Mia Madre est un film très profond, drôle, mais souvent angoissant quand même, à la limite du fantastique, interprété à la perfection, et encore une fois mis en scène de façon exemplaire. Si vous n'avez pas de tendance dépressive, hein, quand même, je vous le conseille. À noter donc qu'il a eu le prix du jury œcuménique au Festival de Cannes en 2015.
Merci Marine d'être allée voir cette avant-première. Et cette fois-ci, eh bien, c'est La Dame du Lac, c'est un des derniers films de noir chroniqué par Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Le détective Philippe Marlowe est chargé par Adrian Fromsett de retrouver sa femme et de Doras Kingsley, éditeur spécialisé dans la littérature horrifique. Alors sa femme lui a envoyé un télégramme un mois auparavant pour lui annoncer son départ inopiné pour le Mexique afin d'épouser une petite frappe, un certain Chris Lavery. Or, Kingsley rencontre Lavery quelques jours auparavant à Hollywood et il semble tout ignorer de ce voyage. Marlowe part enquêter dans la résidence secondaire des Kingsley, où Crystal Kingsley a été vue la dernière fois. Un cadavre est retrouvé dans un lac autour de la résidence. Il semblerait qu'il s'agisse de Crystal, mais l'enquête ne fait que commencer et Marlowe va être entraîné dans un monde de faux-semblants et aller de surprise en surprise. Alors, loin d'être l'un des plus grands films noirs des années 40, La Dame du Lac est restée célèbre par son parti pris formel pour le moins radical et atypique si l'on considère sa date de réalisation, 1946. D'un point de vue narratif, cette adaptation d'une nouvelle de Chandler opte pour une trame classique de l'enquête, sorte de Woody Night alambiqué, alternant fausses pistes, suspects divers et retournements de situations improbables. La nouveauté réside dans le parti pris formel, pour le moins osé et tout de même un peu casse-gueule. La Dame du Lac est en effet tournée entièrement en caméra subjective, adoptant alors le point de vue du personnage principal, le détective privé Philippe Marlowe. Alors l'acteur Robert Montgomery, hein, comédien ayant connu son heure de gloire dans les années 30, prête ses traits un peu lisses au privé le plus connu de la littérature et du cinéma. Son aspect un peu fadasse tombe à pic pour un personnage que l'on ne verra presque pas pendant toute la durée du métrage. Alors pour ne pas demeurer totalement invisible, hein, Montgomery se livre à un exercice curieux en ouverture du film. Il présente à la fois son personnage et l'histoire retors qui va se dérouler devant nos yeux, interrogeant notre capacité à dénouer les fils de l'intrigue. Alors ce procédé amusant mais limité revient à la fin aussi pour un épilogue explicatif, au cas où on n'aurait rien compris. Alors les autres apparitions de Montgomery ont lieu à travers l'utilisation récurrente de miroirs et autres surfaces réfléchissantes. Montgomery enfile également la casquette de metteur en scène, essayant alors de bousculer les règles du film noir. Alors le résultat, loin d'être inintéressant, hein, n'est pas exempt de quelques failles et d'une virtuosité qui tourne un peu à vide. La caméra subjective ressemble plus à un truc de petit malin, un gadget de mise en scène censé pallier les lacunes. Alors il est vrai que l'histoire ne justifie pas vraiment le procédé, hein. Néanmoins, cela permet au spectateur d'être à la place de Marlowe et de ressentir parfois ses faits et gestes, ainsi que les coups qu'il reçoit. Montgomery et son chef opérateur font aussi preuve d'une réalisation soignée grâce à la mobilité d'une caméra scrutant chaque recoin de l'espace. L'effet est souvent ludique et techniquement remarquable. Alors La Dame du Lac pallie l'absence physique du héros à l'écran par une avalanche de dialogues fort bien écrits, mais omniprésents, comme si le réalisateur n'avait pas confiance dans son utilisation de cette caméra subjective, comme si au fond, il avait conscience du manque d'incarnation que peut provoquer un tel choix de mise en scène. Alors à l'époque, la critique fut un peu sévère et injuste. Hein. Revoir le film près de 70 ans après s'avère une bonne surprise et l'on suit avec un grand plaisir ce film noir ludique et complexe jusqu'à la révélation finale, même si au bout du compte, c'est un film assez superficiel. Voilà, c'est un bon film noir, assez trouvable parce qu'il est sorti en DVD chez Warner. Et bon, je le conseille quand même, au moins pour... c'est la première fois qu'on utilisait ce procédé durant tout un film. Hein.
De caméra subjective, et je ne pensais pas qu'on pourrait faire le lien avec le côté fan footage de, de Babysitting 2 dont nous allons parler dans cette émission. Comme il reste un petit peu de temps, je vais parler de L'Hermine, film de Christian Vincent. Je suis quand même allé voir donc ce film pour y voir Lucchini et aussi pour y voir comment le procès y était filmé. Alors rien de bien impressionnant là-dedans, et l'histoire apparaît même facile. Un président d'assises à deux chiffres, soit qui donne des condamnations donc à deux chiffres, voit arriver parmi les jurés une femme dont il est amoureux depuis longtemps. Le procès, c'est celui d'un infanticide suffisamment dur pour créer un enjeu dramatique. La reconstitution de la procédure alors apparaît fidèle. Quant à l'histoire d'amour, c'est aussi un enjeu dramatique car cela change ce président de tribunal en être sensible. Et Lucchini peut dérouler tranquillement et c'est dans ses cordes. On comprend comment l'acteur a pu avoir un prix à Venise, mais on comprend aussi comment le film ne pouvait en avoir car l'ensemble ronronne, même si ça reste plaisant. Grâce à la galerie de portraits naturalistes de ceux qui participent, au procès, et grâce naturellement à la participation de Lucchini, qui lui forcément embrase un peu tout le film. Voilà, donc c'est L'Hermine. Je crois que ça marche très très bien dans les salles.
Oui, il me semble que c'était dans les premiers au box-office ces dernières semaines.
Oui, c'est pas étonnant.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine passée, nous n'avons pas vu le Malick. Cette semaine, verrons-nous le Spielberg?
C'est la Mais question. Oui, bien évidemment.
Alors,
La semaine prochaine,
ce sera quoi?
Eh bien, le Spielberg, le nouveau Valérie Donzelli.
Ainsi que Kill Your Friends.
Ben voilà, ben le sommaire est fait. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.